gosse.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller en ce lundi 1er février avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Cette semaine, nous allons parler de Nicolas Poussin ou l'expérience de l'altérité. C'est une série réalisée avec notre tête-chercheuse Romain Arras, mais c'est peut-être le plus jeune des têtes-chercheuses invitées par Un autre jour est possible. Et puis, en deuxième partie, c'est-à-dire aux alentours de 6h15, Laurent Nunez, le rédacteur en chef des pages culture de Marianne, qui revient de Marseille, nous parlera d'une exposition qui a lieu en ce moment au MUCEM, Made in Algeria. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et nous podcaster via le nouveau site de France Culture.
Poussin était pour moi quelqu'un de poussiéreux, comme pour tout le monde. Et en 1960, ce fut la révélation. Et mon Dieu, à partir de là, je me suis intéressé à lui passionnément. Évidemment, j'ai lu les lettres, qui sont extraordinaires et qui révèlent un homme sublime, intelligent, fin, musical, profond, inquiet, comme si je le connaissais. Il a été en fait rendu poussiéreux par l'académisme. Parce qu'on en a fait de sa pente naturelle un dogme.
Définition de la peinture. C'est une imitation faite avec lignes et couleurs en quelques superficies de tout ce qui se voit dessous le soleil. Sa fin est la délectation.
Extrait de Une vie, une œuvre, Pascal Lismonde, 1995.
Quand j'ai découvert Poussin, il y a une chose qui m'a paru évidente, c'est que tout d'un coup, ces matières étaient très très chaudes, parce que son ébauche, l'ébauche qui était en dessous la matière picturale, l'ébauche était très rouge, et ce qui réchauffe énormément la toile. Mais ça m'a paru tellement intéressant que depuis ce moment-là, moi, je fais toutes mes ébauches avec des préparations rouges, comme ça, qui sont des oxydes de fer dans des tons de mars, et tout ça, c'est vraiment en référence à Poussin, parce que tout d'un coup, l'ébauche prend un sens particulier.
Nicolas Poussin ou l'expérience de l'altérité, une série avec Romain Arasme. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 25 ans, Romain Arasme. Vous êtes doctorant en histoire de l'art à l'école du Louvre, après une formation de philo à la Sorbonne. Et vous avez beaucoup publié, entre autres pour l'histoire de l'art. Et en ce moment, vous travaillez sur Poussin et l'altérité. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi Nicolas Poussin pour parler de l'altérité ?
Alors en fait, j'ai pas vraiment choisi Nicolas Poussin pour parler de l'altérité, mais c'est vrai qu'en commençant à m'intéresser à cet artiste, bien rapidement, il m'est apparu qu'il incarnait quelque chose qui était très important pour moi, ce rapport justement à l'altérité, à la construction d'une identité propre par le biais de l'intégration de ce qui est étranger, de ce qui est autre. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Poussin philosophe. Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur le sujet. Et dans sa correspondance, Poussin cite un seul philosophe, et c'est Montaigne. Montaigne qui, justement, dans les essais, lorsqu'il parle de l'éducation, dit que pour bien éduquer un enfant, il faut, je cite, « le frotter et le limer, frotter et limer sa cervelle, pardon, contre celle d'autrui ». Donc c'est vraiment cette idée de la construction de l'identité en contact avec l'autre. Et en m'intéressant donc à Nicolas Poussin, mais plus précisément sur ces dernières années, j'ai vu que la thématique du recours à l'altérité et à l'étrangéité devenait quasiment omniprésente dans ces derniers tableaux bibliques, donc après 1660. Et tous ou presque mettent en scène l'accueil bienveillant de l'autre, de l'étranger. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été attentif à cette question par des philosophes que j'ai pu lire, et notamment Lévinas. C'est vrai que quand on parle de l'altérité, Lévinas est extrêmement important, parce que c'est lui qui a introduit cette notion dans la philosophie du XXe siècle, donc la reconnaissance de l'autre dans sa différence, à la fois culturelle et religieuse. Et par exemple, dans Éthique et Infini, il met en pratique justement ce rapport à l'autre, et il dit que la vraie relation avec autrui ne neutralise pas son altérité, mais la conserve justement. Donc à côté de Lévinas, il y avait aussi Paul Ricoeur et Marcel Mauss dans un registre différent. Et puis en même temps, quand je me suis attaqué à Nicolas Poussin, qui est vraiment un monument de l'histoire de l'art, je me suis étonné avant tout du fait qu'un artiste qui a passé toute sa vie à l'étranger, à part un petit séjour de 2 ans, ait pu être considéré comme le père de la peinture française, et même de l'art français, et même de la culture française, qui était au milieu du XVIIe siècle en train de naître. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait quelque chose à creuser dans ce rapport-là que Nicolas Poussin entretenait avec sa propre étrangéité.
D'où le voyage en Italie.
Et oui, parce que l'Italie, à l'époque, pour un artiste français, c'est beaucoup de choses. Il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir sur l'image que les artistes français pouvaient avoir de Rome. Premièrement, c'est un imaginaire, un triple héritage artistique, et aussi une double vision de l'universalisme. Parce que avant même le départ de Rome, la ville et le pays existaient déjà à l'esprit des artistes grâce à la lecture des antiques. Gallimard a publié il y a quelques années la correspondance croisée de Roger Martin Dugard et André Gide. Et André Gide écrit cette phrase absolument incroyable. Il écrit « Je consacre 3 heures par jour à Virgile ». Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'à l'époque, c'était même plus que ça. Les artistes étaient totalement imprégnés des vers de Virgile et d'Ovide également, qui a constitué le répertoire iconographique de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Et Virgile, donc les 3 œuvres importantes, c'est l'Énéide, les Géorgiques et les Bucoliques, qui font grand cas du génie du lieu, de la nature omniprésente et bienveillante. Et donc, les artistes partaient à Rome avec cette idée, déjà. Et quelques mots de Jérôme de Lalande, un scientifique du XVIIIe siècle. Il écrit dans son journal Voyage à Rome « On aime à lire Virgile, Cicéron, Horace et Tacite. On ne saurait les lire avec plus de plaisir qu'en voyant les lieux où ils habitèrent, en se promenant sur les collines qu'ils décrivent, en voyant couler les fleuves qu'ils ont chantés. » Donc il y avait vraiment à la fois une connaissance a posteriori, et après c'est l'expérience de Rome. Donc l'imaginaire était nourri par cette culture antique, et il y avait aussi, du point de vue purement artistique, 3 héritages absolument fondamentaux. L'antiquité, elle était présente partout, il y avait des ruines partout dans Rome. L'archéologie est quelque chose qui se développe déjà depuis le XVe siècle, avec les grands érudits et collectionneurs. On pense notamment à Cassiano del Pozzo, qui était le grand ami et mécène de Nicolas Poussin. La Renaissance aussi, parce que quand Poussin arrive à Rome, ça fait 2 siècles que Raphaël est décédé. Et Raphaël était vraiment l'artiste avec un grand A. Dans tout le Moyen-Âge, le philosophe avec un grand P, c'était Aristote. Et là, vraiment, l'artiste de référence, c'était Raphaël. Il y avait bien sûr Michel-Ange et Léonard. Les manières de gagner Rome peuvent être très différentes selon le statut de l'artiste, selon ses moyens. Mais globalement, à l'époque, les voyages sont longs, souvent laborieux et risqués. On n'est pas sûr d'arriver à destination quand on part. Il y a l'exemple de Philippe de Champaigne qui part de Bruxelles pour aller à Rome, sauf qu'il n'atteindra jamais Rome puisqu'il s'arrête à Paris et il fait une grande carrière. Mais en fait, voyager au XVIIIe siècle n'allait pas de soi. Partir, c'était vraiment partir pour longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années, et on ne partait jamais seul. Quand Nicolas Poussin part de Paris pour Rome, pour la première fois, c'est un échec. Il s'arrête à Florence. La deuxième tentative, il ne va pas plus loin que Lyon. Et en fait, ce n'est qu'à la troisième tentative qu'il arrivera bien à Rome. Et en fait, il avait lié amitié avec un poète proche de la famille Barberini, qui passait quelque temps à Paris, Giambattista Marino, dit le cavalier marin. Et en fait, quand il arrive à Rome, ce poète est très malade, et, il va bientôt mourir, et donc il quitte Rome. Et donc en fait, Nicolas Poussin ne connaît pas grand monde. Il avait été introduit dans la famille Barberini, mais toute la famille était partie avec la légation du pape Urbain VIII à Paris. Donc finalement, les premières années sont assez difficiles pour lui. Il vend assez mal ses œuvres, pour quasiment rien. Et en fait, il faut attendre quelques années, 1627, et notamment la mort de Germanicus, un tableau aujourd'hui conservé à Minneapolis, pour vraiment connaître un succès.
Demain, on retrouvera Nicolas Poussin installé à Rome, pour notre série en compagnie de Romain Arasme, Nicolas Poussin ou l'expérience de l'altérité. À demain.
À demain.
Strange when you're a stranger. paper on a wall of a man with his hands in a fist. It's a woman who's drinking and her dress is so tight you can see every breath that she takes, every sigh, every sway. You can hear everything that they say. Some things began like a war, of a family, of a friendship, of a fast love affair. The man on the wall is his symbol of freedom. It means he has brothers who believe as he does. She is moved by the thing that she sees in his face when he talks of the cause. Every sigh, every sway, you can hear everything that they say. Some things began like a war, or a family, or a friendship, or a fast love affair. She leans against him, her dress is so red. They talk of the salt and the truth and the bread. The night goes along, the fan goes around, in a room off the street at the end of the town. Every sigh, every sway, you can hear everything that they say. Some things began like a war, or a family, or a friendship, or a fast love affair.
France Culture. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem.
Et mon invité ce matin, Laurent Nunez, comme tous les mois, le rédacteur en chef des pages culturelles du journal, du magazine, Marianne, vient partager avec nous un coup de cœur. Et là, il revient de Marseille, il a passé le week-end. Vous avez même des couleurs, Laurent, il a fait beau.
Ah, il a fait un temps splendide, mais c'est d'une banalité, hélas, avec Marseille, qu'on ne sait plus quoi dire d'autre.
Oh, pas toujours, pas toujours. En tout cas, là, vous êtes allé à Marseille pour l'exposition Made in Algeria, qui rentre dans le cadre d'une programmation algérienne. Une programmation d'ailleurs avec un drôle de titre, qui renvoie à un livre que vous avez lu, je ne sais pas si vous l'avez aimé, Algérie, la carte et le territoire.
Oui, c'est une exposition de cartes. Alors, ça fait un peu peur, justement, là, mais c'est des cartes intelligentes. C'est-à-dire qu'elles montrent que la carte n'est jamais le territoire, mais que toujours les cartographes essayent, justement, de remplacer le territoire par la carte et imposent, avec une sorte, presque, j'allais dire, de fascisme de géographes et militaires, ça qui est très important à cause de la colonisation, etc. Voilà, ils essayent d'imposer des noms, des références, etc., pour transformer l'Algérie en Algérie française.
Alors, vous avez vu cette exposition, une exposition qui va durer jusqu'au 2 mai. Alors, vous revenez avec quelles impressions, Laurent Nunez ?
La première, c'est que, évidemment, Marseille, c'est vrai, c'est une belle ville. Une très belle ville, agréable, pleine de soleil et multiculturelle. C'est important parce que c'est assez paradoxal, lorsqu'on entre dans l'exposition, eh bien, une sorte de malaise, mais un malaise utile, hein, j'allais dire, nous saisit. Devant le spectateur, hein, plus ou moins innocent, on découvre une immense map monde constituée de 6 pots assemblés et qui déroule en couleurs, vous savez, comme un tableau de genre, eh bien, des scènes de chasse en Afrique, des combats navals entre les flottes chrétiennes et ottomanes, des vues de ville, des sanctuaires chrétiens et ottomans. Et cette carte qu'on découvre, tout d'un coup, elle date, on le sait, de 1662, et elle est l'œuvre de François Olive, un hydrographe marseillais au goût iconographique assez douteux. Vous comprendrez vraiment en voyant la map monde. Mais il fallait la mettre à l'entrée de cette exposition chronologique, car on voit devant, tout d'un coup, on voit ainsi qu'au XVIIe siècle, on ne voyait encore rien des pays de la Méditerranée. Certes, le littoral maghrébin se précise, il est détaillé sur certaines côtes, et c'est normal dans une société où la navigation joue un rôle capital. Mais dès qu'on entre dans les terres, c'est incroyable, il n'y a plus rien. Sur cette immense et vieille map monde à l'entrée de l'expo, c'est le vide intersidéral sur terre. Tout le haut de l'Afrique n'est plus qu'un no man's land, sans ville, sans fleuve, sans route, sans âme qui vive. Et vous connaissez la phrase de Hugo, si rien avait une forme, ce serait cela. Et ben, voilà ce qui était visiblement l'Afrique du Nord pour un Français du XVIIe siècle. Une véritable terra incognita, comme on disait quand on avait encore le droit d'étudier le latin. Et même, j'allais dire, une terra incognita ubi sunt leones. Car vous savez, c'est ça la vraie phrase qui servait de désaveu aux cartographes anciens. Ils inscrivaient sur les territoires très peu explorés, terre inconnue où règnent les animaux sauvages. Et sur cette belle carte d'ouverture, je vous rassure, je ne commenterai pas ainsi la centaine de cartes de l'exposition, mais sur cette première carte, on lit quelque chose d'incroyable et d'équivalent, c'est-à-dire d'aussi triste, d'aussi lâche, hein, que quand il s'agit de nommer le haut du continent africain, c'est-à-dire le Maroc, finalement, l'Algérie, la Syrie, l'Égypte, eh bien, on lit ce mot qui occupe toute la carte, alors qu'il ne contient que 8 lettres, Barbaria. Et oui, le littoral maghrébin, c'était alors le lieu où vivaient les barbares. ceux dont on ne comprenait pas la langue et qui ne comprenaient pas nos coutumes. Barbaria. On savait, ou on avait su, hein, que le mot berbère venait de cette ancienne insulte grecque. On l'avait oublié. Eh bien, les commissaires de l'exposition, Zahar Rahmani et Jean-Yves Sarrazin, ont tenu à nous le rappeler. Parce que toute l'exposition va tourner autour de cette simple question, comment on est passé d'un peuple qui n'a même pas pu choisir le nom insultant de son territoire, Barbaria, à un pays colonisé par la France, pour enfin aboutir à un peuple qui a le droit à l'autodétermination, et je reprends là, vous le savez, les mots exacts de De Gaulle sur les Algériens, en 1959. Moi, j'aime bien cette exposition parce qu'elle est coupée assez finement en quatre parties. La première, donc, c'est intitulée « Vue de loin » et ça dévoile, à travers les cartes topologiques incomplètes ou maladroites, hein, jusqu'en 1830, les fantasmes et les légendes de cette Algérie qui semble appartenir à un autre monde. La deuxième partie de l'exposition, elle s'appelle « Tracer le territoire » et en fait, elle se construit autour d'une véritable nécessité politique. C'est qu'une fois que le gouvernement français a décidé de coloniser le territoire algérien, dès 1833, il a fallu refaire toutes ces cartes. Il a fallu les enrichir encore et encore, simplement pour que les soldats de l'armée d'Afrique ne soient pas perdus dans cette terra incognita fantasmagorique. Et vous vous rappelez le titre de l'essai que le géographe Yves Lacoste avait publié en 1976, « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Et en fait, la topologie, invisiblement, c'est pareil. Ça sert aussi et d'abord à faire la guerre, à choisir des positions stratégiques, à conquérir des territoires. La topologie, je dirais même, ça sert aussi à renommer ces territoires conquis dans la langue du vainqueur, évidemment, et donc à bien signifier qu'on a gagné la guerre. Bon, vous allez me dire, ou vous pourriez me dire, Toufik, avec un peu de tristesse et d'agacement, dans la perspective d'un ennui futur, des cartes, vous n'avez que ce mot à la bouche, ne me dites pas que c'est une expo entièrement faite de cartes topographiques. Alors, là, je vous rassure, je vous dirai pas ça. C'eût été un peu vain et un peu rasoir, je vous l'accorde, mais voilà ce qui s'est passé, parce que j'abats mes cartes moi aussi. Lorsque la France a colonisé le territoire algérien, elle n'a pas envoyé là-bas que des soldats. Elle a envoyé en Algérie également des peintres, comme Delacroix, pour fixer les grandes batailles et les paysages qui allaient être détruits et reconstruits. Elle a aussi envoyé des scientifiques, 3 ans même avant les premiers colons d'ailleurs, en 1839. Des scientifiques qui devaient étudier la faune et la flore et le meilleur moyen de faire de l'Algérie le grenier de la France. Eh bien, c'est cela qu'on trouve à l'intérieur de la troisième partie de l'expo, qui s'appelle « Capter l'Algérie ». On trouve ça, les efforts des artistes et des intellectuels pour déconstruire avec le vieux mythe de la terra incognita et pour que les berbères ne passent plus pour des barbares. Et on découvrira donc des peintures des grandes batailles, ça c'est sûr, c'est pour l'histoire, mais aussi et surtout des simples portraits de gens, des paysages silencieux faits de rochers superposés, de pentes abruptes. Et je vous conseille d'ailleurs de vous pencher sur les 6 aquarelles étouffantes d'un dénommé Adrien Dosatz qui participa en 1839 à l'expédition militaire pour rétablir la liaison terrestre entre Alger et Constantine. C'est très oppressant. Et comme dans « Capter l'Algérie », on peut également entendre la captation de l'Algérie, vous vous doutez bien qu'on trouvera aussi dans cette partie de l'exposition des dizaines de tracts qui vantent la colonisation, des extraits de journaux racistes, très nationalistes, des affiches officiellement joyeuses sur les terres offertes aux paysans colons, c'est-à-dire sur les terres retirées et soustraites aux autochtones, ou encore des copies de décrets sur les larges abattements d'impôts dont bénéficiaient les familles qui acceptaient de quitter la métropole. On s'agace à la fin, on s'énerve, on s'irrite de cette rhétorique colonisatrice. Et arrive enfin, et heureusement, la quatrième et dernière partie de l'expo, la plus petite, mais la plus optimiste en fait. Elle s'appelle « Au plus près ». C'est un peu vague, moi je l'aurais mieux nommé « Reprendre la parole ». Parce que contient-elle ? Eh bien, l'exact contraire des salles précédentes. Vous aviez remarqué qu'on ne parlait alors de l'Algérie, corps de l'Algérie, avec l'Atlas européen, avec les tableaux de peintres français, dans les tracts et les journaux français également. Eh bien, cette exposition se termine sur des photographies, des œuvres audiovisuelles et des peintures contemporaines d'artistes algériens. C'est très bien trouvé, et puis c'est normal, il faut rendre à César ce qui est à César, et au peuple algérien les moyens artistiques de se réapproprier un passé qui peut-être ne passe pas. Et cela d'ailleurs se fait parfois avec humour et avec sagacité, parce que nous quittons notamment l'exposition avec de très beaux détournements cartographiques signés Elal Zoubir, qui enseignait à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger de 1977 à 2010. Alors par exemple, on voit une carte, on reconnaît la forme de l'Amérique, mais l'artiste a écrit dessus Cuba. On voit la Russie, ah ben non, c'est devenu Rome. On voit l'Australie, mais non, il y a marqué dessus, il y a marqué c'est l'Inde. Voilà, manière assez drôle hein, de dire que les cartes ne sont pas que des cartes, que les mots ne sont pas que des mots et que, vous savez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ça, c'est une phrase d'un Algérois de cœur hein, qui s'appelait Albert Camus et qui a passé sa vie à expliquer que le barbare, ça n'existe pas, pas plus que ce qu'on appelle assez abominablement l'étranger.
Merci Laurent Lunez. Une chronique à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. On se retrouve demain avec notre série consacrée à l'expérience de l'altérité chez Nicolas Poussin. Et en deuxième partie, on parlera de chocolat avec l'historien Gérard Noiriel. Émission réalisée par Thomas Duterre, préparée en compagnie de Pascaline Bonnet et d'Anaïs Isbert. Passez une bonne journée. Bonne journée, Laurent.
Bonne journée, Toufik.
Toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.